Bonjour, bonjour Yves, au micro de 24 notes secondes pour une nouvelle émission qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant ou en vous apprenant, c'est selon que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, les petites images qui bougent sur les grands écrans ou ailleurs si vous voulez. À cette occasion, eh bien, je vous rappellerai que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'une petite merveille signée Blake Edwards, sortie en 1962. En français, on ne sait trop pourquoi, ça s'appelait Diamant sur canapé. En anglais, Breakfast at Tiffany's. Audrey Hepburn, George Peeple en tenaient les rôles principaux et notre cher Henry Mancini était à la baguette de ce Moon River qui connut un succès mondial et qui valut d'ailleurs à son compositeur un Oscar. C'est tout le malheur qu'on souhaite au compositeur que nous allons évoquer ce jour, mais l'homme est dans ce domaine relativement jeune, puisque né en novembre 1977, Daniel Pemberton, un compositeur dont peut-être vous ignorez le nom, mais je ne suis pas sûr que vous ignoriez les films dont il a signé la musique, car quelques-uns sont désormais des blockbusters et à une 40 ans donc passés, eh bien, Daniel Pemberton commence à acquérir une célébrité certaine qui peut encore le mener loin. Après tout, 40 ans, c'est le bel âge pour un compositeur de musique de film. Donc, peu de choses à dire sur l'homme. Du coup, eh bien, on va écouter ses musiques. C'est le but de 24 notes secondes. Et nous allons commencer avec la partition d'un film tourné en 2001 qui, en anglais, s'appelait The Awakening, l'éveil, rappellerai-je pour les non-anglophones. Et en français, ça s'appelait La Maison des Ombres, puisque pour une fois, on avait pris la peine de traduire le titre, une histoire d'horreur un peu gothique, dans les principaux rôles duquel on retrouvait Rebecca Hall et Dominic West, plus connu comme étant le charismatique McNulty du feuilleton The Wire, dont je vous rappelle incidemment que c'est la meilleure série télévisée de tous les temps. Voilà, Dominic West était dans The Awakening dans un rôle bien différent et on va écouter un extrait de cette bande originale. Le film était réalisé par Nick Murphy. La bande originale, vous l'avez déjà compris, elle est signée Daniel Pemberton dans 24 notes secondes. Voilà l'élégante musique de Daniel Pemberton pour un extrait de la bande originale de La Maison des Ombres, un film signé par Nick Murphy. Une histoire gothique, comme on en a beaucoup vu dans le cinéma anglo-saxon de ces 10 dernières années, pour un compositeur lui-même anglais, même s'il n'a pas composé que pour des films anglais, puisque c'est le cas du film suivant que nous allons évoquer musicalement, un film tourné en 2015 par Danny Boyle, plus connu sans doute pour être le réalisateur du cultissime Trainspotting, et de Trainspotting 2 aussi bien, qui était plutôt pas mal venu, même si on avait eu peur au départ. Et en 2015, eh bien, Danny Boyle s'est essayé à un sujet tout à fait différent, puisqu'il a réalisé une biographie de Steve Jobs, dont je n'ai pas besoin de vous préciser qu'il est le fondateur d'Apple, le créateur du Macintosh, et de toutes ces choses qui encombrent vos poches et délestent aussi votre compte en banque, c'est bien connu. Le rôle de Steve Jobs était tenu dans ce film par Michael Fassbender, plus connu pour être un des X-Men, et à ses côtés on retrouvait Ken Winslet, Messi, ex-Titanic, deux acteurs qui, ma foi, se débrouillèrent plutôt bien, puisque l'un comme l'autre, ils furent nommés aux Oscars pour ce film qui évoquait la vie de Steve Jobs en trois parties bien différentes entre 1984 et 1998, correspondant, en tout cas pour le scénariste Aaron Sorkin, à trois moments clés de la vie du dit Steve Jobs, en l'espèce la sortie du premier Macintosh, la sortie du Next Computer, bien oublié, mais moi je m'en souviens, un ordinateur tout noir et tout à fait inquiétant, il faut bien le dire, et puis la sortie de la iMac, dont je n'ai pas besoin là encore de vous préciser le succès commercial qu'il connut et qui fait d'Apple une des sociétés les mieux cotées en bourse au monde. Nous sommes bien loin de nos sujets. La partition elle-même de Daniel Pemberton, eh bien ma petite fiche qui ne ment jamais, je vous le rappelle, dit qu'elle était elle-même agencée autour de ces trois chapitres, de ces trois épisodes bien différents, avec à chaque fois une coloration musicale tout à fait particulière, tout à fait spécifique, ce qui prouve, s'il en était besoin, eh bien, que les compositeurs de musique de film sont très attentifs à accompagner l'esprit dans lequel les films sont tournés. Voilà, ben je vous ai dit l'essentiel, je vais vous laisser juger sur pièce ce qu'il en est dans la partition elle-même, un petit extrait donc de la partition de Steve Jobs, Daniel Pemberton dans 24 secondes. Voilà, la planante partition de Daniel Pemberton pour un extrait de la bande originale de Steve Jobs, un film de Danny Boyle consacré bien évidemment à Steve Jobs, vous l'aurez deviné. Alors, je ne sais pas dans quel chapitre se situait cette musique, mais à mon avis, ça doit être dans la première partie où Daniel Pemberton n'avait utilisé que des synthétiseurs postérieurs à 1984, à l'époque à laquelle se situe justement cet épisode. Juste l'occasion donc de signaler le soin apporté par le compositeur dont vous allez pouvoir juger avec cette fois un extrait d'un film tout à fait différent, une musique elle aussi tout à fait différente, un film de 2015 signé de Guy Ritchie et qui était une adaptation, et il y en a eu beaucoup de ces derniers temps, une adaptation pour le grand écran d'une série télévisée pour le petit, mais une série des plus anciennes puisque The Man from U.N.C.L.E., l'homme d'Uncle, des agents très spéciaux en français, est une série de 1964. Autant dire que ça ne rajeunira pas la majorité d'entre vous qui n'étaient pas nés et ça ne rajeunira pas non plus les autres, il faut bien le dire. En tout cas, et même si le film a connu un insuccès commercial notoire, eh bien, je dois dire que personnellement, j'ai trouvé que c'était un petit bijou. Tout simplement un petit bijou d'humour et d'action avec un trio charismatique, avec un petit accro, je dirais, à la série télévisée originelle dans laquelle il n'y avait pas de femmes en 1964. Quelle horreur! Dans le film, il y avait évidemment deux hommes pour interpréter les deux agents principaux. Il y a Kouriakin et puis le second dont j'ai oublié pour l'instant le nom, mais ça me reviendra après l'extrait. En l'espèce, Henry Cavill alias Superman et Armie Hammer. Et puis, il y avait la délicieuse Alicia Vikander dans le rôle de la belle espionne. Il y avait aussi Hugh Grant dans le rôle du représentant de Sa Majesté. Plein de méchants, plein d'effets spéciaux et puis une atmosphère très années 60 puisque pour le coup, on avait choisi de préserver l'esprit de la série. Et le tout était très réjouissant, très drôle et avec une musique dont vous allez pouvoir juger par l'extrait que je vais vous proposer, combien elle était adaptée. Il y avait beaucoup de chansons aussi d'époque judicieusement choisies et insérées. Et Daniel Pemberton, avec beaucoup d'élégance, avait réussi à créer quelques morceaux qui relèvent de la bombe, comme l'extrait que vous allez écouter là, maintenant. ben là, si ça ne vous a pas réveillé, c'est que vous êtes mort. Je suis désolé de vous l'apprendre. Un extrait de la bande originale de Des Agents très spéciaux, un film de Guy Ritchie tourné en 2015. C'est le genre de choses que je vous conseille le matin quand vous vous levez. Et ouais, grande forme, vous mettez ça à fond. Et après, à mon avis, rien ne peut vous arrêter dans la journée. Certes, vous allez divorcer. Certes, tous les voisins vont vous détester. Mais au moins, vous serez content après tout. Hein. On a les plaisirs qu'on peut. Daniel Pemberton, donc un compositeur qui sait utiliser de la percussion et du gros son, on peut pas dire, même si on a eu l'occasion au début de voir qu'il était éclectique, et il va le prouver encore dans l'extrait que nous allons maintenant entendre, un extrait d'un film tourné en 2017, donc bien récemment, par Ridley Scott, et qui racontait un fait divers qui, en 1973, eut beaucoup d'écho, la tentative de kidnapping et d'extorsion, surtout de John Paul Getty III, et d'extorsion donc d'argent auprès de son grand-père de son grand-père John Paul Getty, avec le refus de celui-ci de contribuer bien à la libération d'un de ses descendants qu'il détestait cordialement. Bref, une histoire relativement, je dirais, fait divers, avec beaucoup de haine et de famille qui se détestent, dans laquelle Ridley Scott, eh bien ma foi, faisait merveille. Alors le principal fait qu'on peut souligner sur le tournage de ce film, c'est que dans un premier temps, eh bien, le rôle de John Paul Getty était tenu par Kevin Spacey, un acteur bien connu, qui connut sa célébrité avec Usual Suspect et aussi avec la série House of Cards. Mais, entre le tournage et la fin du tournage de ce film, eh bien, Kevin Spacey avait été accusé de viol ou quelque chose de ce genre. Et du coup, la production, sans coup férir, décida de retourner toutes les scènes auxquelles il avait contribué avec un autre acteur, en l'espèce Christopher Plummer. Au cinéma et à Hollywood surtout, on est un peu impitoyable. Et donc, on ne voulait pas compromettre la carrière commerciale du film en le ressortant avec un acteur qui lui-même était au banc des accusés. D'ailleurs, le pauvre, ou le coupable, on ne sait pas, mais en tout cas, il l'est toujours. Et donc, en quelques semaines, pour un coût exorbitant de plusieurs millions de dollars, eh bien, Ridley Scott, qui n'est pas certes le premier venu, réussit à retourner la situation et à offrir à Christopher Plummer, qui aurait pu aussi avoir quelques scrupules de prendre le travail d'un camarade, mais je vous le répète, on est à Hollywood, business, eh bien, réussit à dépasser en fait le scandale, et donc à faire une substitution qui ne contribua pas beaucoup d'ailleurs au succès commercial du film. À côté de Christopher Plummer, eh bien, on retrouvait Michele Williams, Mark Wahlberg et puis notre Romain Duris national, qui jouait forcément le rôle d'un kidnappeur. Et oui, français égale méchant dans les films américains. Le film, il s'appelait et il s'appelle toujours All the Money in the World, ce qui résume effectivement l'histoire. Et donc, on va écouter un extrait de sa bande originale, Daniel Pemberton, dans 24 notes. Thank you. Un extrait folâtre et ironique, dirais-je, de la bande originale de All the Money in the World, un film de Ridley Scott tourné en 2007, une musique de Daniel Pemberton qui était notre héros de ce jour. Et nous allons nous quitter en écoutant, une fois n'est pas coutume, la bande originale d'un feuilleton télévisé. J'ai parlé de The Wire tout à l'heure. Eh bien, Black Mirror semble bien parti pour rejoindre The Wire dans la série des cultissimes séries. Et on va écouter un extrait d'un épisode où, d'après ce que j'ai compris, puisque j'avoue, je ne l'ai pas vu, on voyait un créateur de jeux vidéo créer une sorte de jeu vidéo en réalité virtuelle à partir de Star Trek, autre feuilleton bien connu, dans lequel il se réservait le droit de tuer évidemment certains des personnages, et y compris évidemment, sinon c'est pas drôle, dans la vraie vie. Le tout apparemment était bien troussé et coécrit par le créateur de la série Black Mirror, Charlie Brooker. L'épisode, il s'appelle USS Callister, donc les allusions à Star Trek, y sont nombreuses, et Daniel Pemberton en avait composé la partition dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.